Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce vendredi est forcément le dernier jour d'une semaine spéciale qui est passée bien vite sur Europe 1, semaine au cours de laquelle Franck Ferrand reçut les descendants de personnages de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On reviendra peut-être sur cette formule très amusante.
Oui, c'est vrai.
Alors last but not least, comme disent les anglo-saxons, nous allons ressusciter aujourd'hui le merveilleux Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Ex comme disent ceux qui l'aiment.
Et vous allez le faire, c'est la règle, cette semaine, en compagnie de ses descendants.
Oui, deux proches parents du grand écrivain, je devrais dire du grand Tom tout simplement, François Daguet, son neveu et filleul, Olivier Daguet, son petit-neveu, ils sont respectivement le président et le directeur de la succession Saint-Exupéry Daguet, et je ne crois pas qu'il soit possible de connaître mieux que le papa du petit prince.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le 31 juillet 1944, le grand écrivain, peut-être le plus grand, disparaissait aux commandes de son appareil, un Lightning P-38. Or, le matin même, il avait survolé la vallée du Rhône, et notamment cette vieille demeure de la Maule dans le Var, propriété de sa grand-mère maternelle, où il avait passé de si beaux moments, si purs, si intenses, en compagnie de sa mère, bien sûr, de ses sœurs, de son frère, sans oublier la gouvernante autrichienne, Paula. Cette Paula qu'il s'était amusé si souvent à faire enrager. Il me semble qu'une des clés pour comprendre ce destin grand format, une des clés réside dans cette enfance particulièrement heureuse. Saint-Exupéry n'a quasiment pas connu son père, le comte Jean, puisqu'il est mort en 1904. Saint-Exupéry avait 3 ans et demi. Ça ne l'a pas empêché de vivre une enfance choyée, même si ça a dû contribuer, en faisant de lui une sorte de petit chef de famille, à lui donner cette prééminence qui forge les grands tempéraments. Il paraît que le petit Saint-Ex était une sorte de tyran domestique, mais dans le genre despote éclairé tout de même. La première grande rupture survient en 1909. Là, soudain, à la fin de l'été, sa mère s'installe au Mans avec ses enfants, qu'elle a inscrits au collège jésuite de Notre-Dame de Sainte-Croix. Antoine est un élève, irrégulier, fantasque, pas très appliqué. Il va connaître l'internat en 1914. Madame de Saint-Exupéry, on est au moment de la Première Guerre mondiale, elle s'engage alors comme infirmière à l'hôpital d'Ambérieu. Avec son frère, il se retrouve d'abord au collège de Montgré à Villefranche-sur-Saône et puis très vite chez les frères maristes à Fribourg en Suisse. On ne fait pas plus chic. Malheureusement, c'est là, à la villa Saint-Jean de Fribourg, que son jeune frère François tombe malade. Il est atteint de rhumatisme articulaire avec complications cardiaques. Il a 15 ans, François. Et Antoine, qui est de 2 ans son aîné, n'arrive pas à croire à l'issue fatale. Il faut pourtant les rapatrier en 1917. À Saint-Maurice, on peut dire que le sort s'acharne et que le petit frère va s'éteindre dans les bras du grand. Au plus profond d'Antoine, quelque chose s'est fêlé à ce moment-là. On peut dire qu'il ne sera plus jamais comme avant.
Un extrait sur Europe 1 de l'ouverture de La Force du Destin composée par Giuseppe Verdi, Franck.
Alors pour Antoine de Saint-Exupéry, devenu parisien, c'est le temps des études. Il faut bien que la vie continue malgré la mort de son frère François. L'école Bossuet, le lycée Saint-Louis, maths P, une préparation pour l'école navale. D'ailleurs, il va échouer à l'entrée à l'école navale. On a envie de dire tant mieux pour l'aviation et surtout Peut-être tant mieux pour la littérature. Cependant, son service militaire, 2 années entières à l'époque, comme deuxième classe, on plaisante pas avec le service militaire évidemment dans cette période, c'est pendant ce service que le jeune homme va apprendre à piloter, ou pas par hasard, je précise tout de suite, de volonté délibérée. Antoine est fasciné par cette nouvelle invention, par ces aéroplanes devenus déjà des avions. Il est dans un régiment d'aviateurs, mais il est rampant, lui. Il reste au sol, naturellement. Alors avec des économies qu'il fait progressivement, il va s'offrir des cours privés de pilotage. Et là, attention, premier accident, sans gravité, je vous rassure. Il a voulu décoller seul, dans le cadre toujours de ce cours privé, avant l'arrivée du professeur, et il a froissé de la tôle. Si tant est qu'on puisse parler de tôle pour les avions de l'époque qui ont comporté somme toute assez peu. Saint-Ex est intégré parmi les volants au groupe de chasse du 33e régiment d'aviation. Ça va lui permettre de connaître les ciels de France et du Maroc. Seulement voilà, son retour à la vie civile équivaut à une brutale redescente. Le voilà dans un sombre petit hôtel au 70 bis du boulevard d'Ornano. Il est fiancé, la belle famille ne veut pas entendre parler d'avion. Elle veut faire de lui un homme d'affaires. Elle veut faire de lui, mais on ne fait pas quelque chose d'un homme comme Saint-Exupéry. C'est lui qui se fait tout seul et dans le sens qu'il a choisi. À l'automne 1926, le voilà donc de retour sur un terrain d'aviation. Il est à Montaudran près de Toulouse et il a en poche une recommandation du directeur général de l'aéropostale, à l'époque on appelle ça les lignes Latécoère, à l'intention du fameux Didier Dora qui dirige les pilotes. « Bon, ben, suivez la file », a répondu Dora quand Saint-Exupéry s'est présenté. Et il a fait exprès de le mêler à l'équipe anonyme. Voilà donc Antoine en bleu de chauffe, les mains dans le cambouis. Vous pensez que notre jeune homme de bonne famille va s'insurger? Mais pas du tout. Vous l'imaginez mal à l'aise au milieu des ouvriers? Au contraire, il jubile. Pour lui, c'est même une révélation. La grandeur d'un métier, c'est d'unir des hommes, écrira-t-il plus tard. Car Saint-Exupéry vient de faire ce qui pour lui restera peut-être comme la plus grande, la plus émouvante découverte de sa vie, celle de l'esprit d'équipe, de la camaraderie, de cette responsabilité partagée qui fait que chaque homme répond de la vie de tous ses camarades. Essentielle cette notion de responsabilité pour lui. Alors il va quitter le bleu néanmoins pour la combinaison de pilotes, il va voler en Espagne, en Afrique du Nord, et comme il n'est pas mauvais, c'est un euphémisme, le voilà bientôt affecté à Cap Juby. On est en plein désert marocain, c'est beau, c'est grand, c'est pur, mais ça laisse du temps libre. Du temps pour écrire un premier roman, ce sera Courrier Sud. On peut dire que dès cette époque, Saint-Ex n'est pas loin de s'accomplir pleinement. Il connaît la méditation en vol et au sol, évidemment, la rédaction qui en résulte plus ou moins directement. Il écrira cette année-là à sa mère, « Ma petite maman, vous avez un fils très heureux qui a trouvé sa voie ». Et il ajoute en PS, « S'il vous plaît, ne mettez plus compte sur les adresses, ça le gêne vis-à-vis de ses camarades ». Après 2 années de mission au désert, rien ne lui convient mieux, notre pilote prend du galon, Dora lui-même le fait nommer directeur de l'aéropostale Argentina, autrement dit, à nous deux, Buenos Aires. Seulement là-bas, les tâches administratives lui pèsent vite. Son plaisir à lui, c'est de voler. Il vole même jusqu'à la Terre de Feu. Il vole de nuit au-dessus des Andes. Vous me voyez venir. Cette saisie enchantée de la Terre vue des étoiles dans lesquelles va se perdre l'aviateur comme égaré. Tout ça lui inspire un chef-d'œuvre, Vol de nuit, qui sera le prix Femina 1931. Le vrai sujet du roman, c'est le choix entre un quotidien tranquille et l'aventure, une aventure au service des autres, l'obscur sentiment d'un devoir plus grand que celui d'aimer, écrit-il. C'est avec ces mots magiques qu'il va peu à peu prendre, comment dire, ce sont des mots, vous savez, quand vous lisez Saint-Exupéry, vous avez des frissons très souvent. Il est capable comme ça d'exprimer des choses très profondes. Cette sorte d'apogée pour lui marque en même temps, mais c'est souvent le cas, le début des années difficiles, d'abord professionnellement, car ses soutiens au sein de l'aéropostale ne sont plus là, Saint-Ex va rester chez Latécoère, mais il lui faut rentrer en métropole où il ramène sa jeune et fatigante épouse, la belle Consuelo, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Il est maintenant pilote d'essai sur hydravion et attention, troisième accident, j'en ai oublié un au passage, en baie de Saint-Raphaël, où il manque de se noyer cette fois. C'est la fin du pilotage, du moins pour un temps. Nous retrouvons notre auteur endetté, parce que madame est aussi dépensière que monsieur. Nous les retrouvons à Paris en 1935. Là, il accepte des commandes de magazines pour des reportages à Moscou en 1935, en Espagne, plongé alors dans la guerre civile en 1936-37. À chaque retour, c'est une partie de cache-cache avec les huissiers et leurs petits télégrammes bleus. Oh, c'était ma période bleue, dira-t-il. Pour donner un semblant de sens à une existence qui paraît se déliter un peu, il s'invente alors des défis qu'il relève aussitôt. Ainsi de cette idée d'un Paris-Saïgon par les airs qu'il entreprend sur un Simoun appartement à Dora et qui le conduit, quatrième accident, à un crash en plein désert de Libye, à 200 km à l'ouest du Caire. C'est là que va naître l'idée de départ du Petit Prince, évidemment.
Sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein ?
Dessine-moi un mouton.
La voix de Gérard Philippe, bien entendu, lisant ce début du Petit Prince, inspiré par l'accident, donc quatrième accident déjà de Saint-Exupéry. Alors en janvier 38, comme s'il n'avait pas eu sa dose d'émotion forte, le casse-cou entreprend un raid aérien New York Terre de Feu, en compagnie de son fidèle mécanicien Prévost. J'aurais dû vous en parler plus tôt de Prévost. Là encore, ça se termine mal, même très mal. Il y a une perte de vitesse de l'appareil au décollage et attention, cinquième accident, de plus en plus grave sur le terrain de Guatemala. Cette fois, Saint-Exupéry est grièvement blessé. Il souffre de multiples fractures et de commotions, des plus sérieuses. Ce qui fait que c'est un homme blessé, blessé au physique comme au moral, qui reçoit en 1939 le Grand Prix du roman de l'Académie française pour un ouvrage qui, au demeurant, n'est pas, en tout cas pas vraiment un roman, Terre des hommes. L'éthique de Saint-Exupéry se construit, elle s'épure, elle gagne en force, tout simplement, elle nous gagne.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck qui rend hommage aujourd'hui sur Europe 1 au père du Petit Prince, à Antoine de Saint-Exupéry.
Alors à l'automne 39, Saint-Exupéry va décliner l'offre de Jean Giraudoux d'entrer au commissariat à l'information. Il refuse de rester du reste longtemps pilote instructeur dans le Midi. Grâce à ses grandes relations, il obtient d'être affecté là où il veut, c'est-à-dire dans une unité active, en l'occurrence la 233, qui est un escadron de grande reconnaissance. Arrive bientôt l'offensive allemande, le 10 mai, qu'il vit aux premières loges, tout ça le révulse, il est découragé par ce désastre français et par le courage de tant de soldats qui s'épuisent en pure perte. Saint-Exupéry tient son rôle avec honneur, notamment au-dessus d'Arras. Après la défaite, comme il a été démobilisé avec son unité en Afrique du Nord, il décide de partir pour les États-Unis. Et ce qu'il découvre là-bas est effrayant. Il y a ce petit groupe de Français réfugiés, vous savez, et qui va assez vite lui déplaire. Surtout, ce qui le choque, c'est le mépris de l'opinion américaine pour un peuple français accusé de ne s'être pas battu. Ça le consterne, ça. Et c'est pour réagir contre cette opinion qu'il va publier Pilote de guerre en février 42. C'est aussitôt un best-seller. Ça va rendre un grand service à la cause de la France libre en l'occurrence, et des alliés en Amérique. Saint-Exupéry, à cette époque-là, habite à New York. On y reviendra aussi. Il est au 21e étage d'un gratte-ciel. Pour fuir toutes les laideurs que la vie lui impose, on peut dire que c'est peut-être pour ça, en tout cas, qu'il écrit Le Petit Prince, dont la poésie, tellement juste, tellement humaine, va bercer des générations d'enfants et de parents. J'espère que c'est loin d'être fini. Vers la fin de la guerre, usant plus que jamais de son prestige d'écrivain, Saint-Exupéry parvient à se faire affecter dans une base aérienne américaine en Méditerranée. Et oui, nous y voilà, enfin, presque, vous m'avez compris. L'escadrille à laquelle il appartient est transférée à Bastia-Borgo en juillet 44. Antoine vole à ce moment-là sur ce fameux Lightning P-38 à double fuselage. Vous savez, c'est un avion super puissant qui théoriquement est réservé à des pilotes très jeunes et surentraînés. Or, Saint-Exupéry a tout de même 44 ans. Ses réflexes ne sont peut-être plus ce qu'ils ont pu être. Le 29 juillet, son commandant décide de le mettre au courant du débarquement allié en Provence. À partir de ce moment-là, quand il sera au courant, il ne pourra plus voler. Évidemment, on ne peut plus faire courir le risque de laisser tomber à l'ennemi des personnes informées, ce qui équivaudra à une interdiction de voler. Et oui, seulement, on doit le mettre dans le secret dès le 1er août. Et là, on est seulement le 31 juillet à 8h30 du matin. Saint-Exupéry décolle pour la dernière fois. Quand je dis la dernière fois, c'est la dernière fois de sa vie. À 13h30, on commence à s'inquiéter de ne pas le voir revenir. À 14h30, on comprend qu'en termes de réserve, il ne peut plus avoir de réserve d'essence. C'est un calcul facile à faire. Et le lendemain, 1er août, un pilote allemand, l'aspirant Robert Eichele, déclara avoir abattu un appareil ressemblant à celui de Saint-Exupéry comme un frère jumeau. Nous allons voir ce qu'il faut penser de tout cela dans un instant. Il n'en fallait pas plus, en tout cas, pour tous ceux qui se refusaient à croire à sa disparition. Ils ont compris cette fois. C'est 56 ans plus tard seulement, en mai 2000, qu'un plongeur français, Luc Van Rel, découvrira ou prétendra avoir découvert l'épave de l'appareil de Saint-Exupéry au large de Marseille. Ça aussi, nous allons y revenir. Ce qu'il est possible d'affirmer aujourd'hui, c'est que Saint-Exupéry, en tout cas, a bien été abattu en plein vol ce 31 juillet 1944. Il a disparu comme il l'a lui-même écrit dans son chef-d'œuvre, Citadelle. Ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est cela seul dont tu peux vivre. Nous sommes donc en compagnie du neveu et filleul d'Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour François Daguet.
Bonjour.
Et d'Olivier Daguet, petit-neveu. Donc vous vous occupez tous les deux de la succession Saint-Exupéry-Daguet. Vous êtes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes ses plus proches parents, François Daguet?
Oui, je suis son neveu. Ma mère était sa sœur.
Oui, on ne peut pas,
on ne peut pas faire mieux,
plus proche,
plus près.
Et il n'a pas eu d'enfant.
Et n'ayant pas eu d'enfant, nous sommes, si vous voulez, la suite, nous assumons la suite de cette aventure.
Est-ce qu'on peut dire que votre vie, François Daguet, a été illuminée par la présence de cet oncle tout à fait hors du commun?
Eh bien, oui, on peut le dire, parce qu'en partie, surtout quand nous étions tout petits, très jeunes, et qu'il venait, c'était... Cet oncle avait déjà pour nous une dimension, assez, une grande dimension, parce qu'il était pilote et écrivain. Cet état, si vous voulez, là, n'a fait que croître dans le temps. Et je me souviens qu'en fait, plus tard, chaque fois que nous le rencontrions, nous avions gagné quelque chose intérieur. Et mes souvenirs, mes souvenirs remontent à...
Quel âge aviez-vous quand il a disparu?
15 ans.
15 ans.
15 ans. C'est le dernier souvenir. C'est son retour d'Algérie au mois d'août, où il a passé un certain temps à Agué et où il écrivait beaucoup. Il s'absentait. Il allait voir pas mal d'amis en France. Il avait été à Vichy, à Paris. Et puis un beau jour, il n'était plus là. Déjà appris par la suite qu'il était parti pour le Maroc et ensuite le Portugal et les États-Unis.
Excusez mon regard un peu insistant, mais il faut reconnaître qu'il y a des traits tellement reconnaissables sur votre visage que c'est toujours, bien sûr, un peu impressionnant.
Pour ma génération, c'était un peu différent parce que nous assistions à une sorte de culte que les femmes de Saint-Exupéry lui rendaient. Mon arrière-grand-mère, la mère de Saint-Ex, Marie, qui était une femme extraordinaire, je
très,
pense que François Daguet peut en témoigner, et qui nous impressionnait
caractère.
Énormément quand on avait 10-12 ans, hein, puisque moi j'avais 13 ans quand elle est morte, et puis sa sœur, et donc ses deux sœurs en fait, et Consuelo aussi, la tante Consuelo bien sûr, qu'on voyait souvent, et ces femmes rendaient un culte à Saint-Exupéry, et on était un peu loin du culte, faut dire, et c'est uniquement quand toutes ces personnes sont disparues,
que vous avez commencé à y revenir,
en 1986, qu'on a commencé à y revenir.
Eh oui. Par l'œuvre?
Alors non, l'œuvre quand même, on l'a découverte avant, moi quand j'avais 18 ans. J'ai un petit souvenir, je me souviens d'avoir visité ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui j'avais 10 ans, elle me dit, est-ce que tu as lu Le Petit Prince? Et je l'avais pas lu.
Oui.
Alors évidemment, je me suis fait engueuler, ça a été terrible. La semaine d'après, visite à Cabris, dans sa merveilleuse maison de Cabris, légendaire. Et là, j'ai dû faire mes commentaires.
Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on règle tout de suite, si tant est que ce soit possible, en quelques minutes, la question de cette disparition et du mystère. Parce que je trouve un peu dommage, même si c'est un sujet très intéressant, bien entendu, et moi qui d'habitude suis un fan d'énigmes historiques, je devrais être heureux, mais je trouve un peu dommage que la mémoire de Saint-Exupéry soit souvent, pas occultée, mais mobilisée par cette affaire de mystère historique sur sa disparition. Le personnage et l'œuvre et la philosophie, si je puis dire, sont tellement immenses et tellement plus importants. Alors, réglons cette affaire. Qu'en est-il de la mort de Saint-Exupéry selon vous, Olivier Daguet ?
Alors, nous sommes d'accord que Saint-Exupéry, le problème avec Saint-Exupéry, aussi la solution, c'est qu'il est tellement vaste,
mais oui,
qu'il y a plein de sujets, comme Le Petit Prince aussi peut être considéré, oui, comme un sujet, sûr, qui occulte parfois le reste,
tout
de
l'œuvre. Le
record
monsieur
du monde des traductions, vous voyez, c'est vraiment l'œuvre universelle par essence. Et souvent, on ne parle pas du reste de l'œuvre. Nous aussi, on se bat pour ça. Mm-hmm. Et vous avez raison de dire que parfois, ce sont des sujets qui sont un peu trop en avant. Mais c'est l'actualité. Et bien avec Saint-Exupéry, on est toujours dans la modernité. Il y a toujours de l'actualité. Il se passe toujours quelque chose. Et là, c'est vrai, ça passionne les gens aussi. C'est la passion. Il faut bien se mettre dans ce cadre. Et on n'est pas dans le rationnel, là. On est dans la passion du plongeur, la passion des fans de Saint-Exupéry.
Je me rappelle, pardon, je vais être un peu irrévérencieux, mais à l'époque où je travaillais pour le service historique de l'armée de l'air, on disait toujours, à chaque fois que le mot Saint-Ex arrivait, on disait, ah, il froissait de la tôle. Ça veut dire qu'il a eu quand même beaucoup d'accidents, c'est incontestable. Alors certains ont dit, il a eu une défaillance de pilotage, il s'est crashé tout seul. D'autres disent, il s'est suicidé. Et puis, la thèse la plus répandue, évidemment, c'est de dire qu'il a été abattu par un pilote allemand.
On va s'en tenir aux faits. On va passer au-delà de la passion. On va être rationnel. Maintenant, le temps a passé, heureusement. La famille a eu le temps de digérer tout ça, parce que ça a été très, très douloureux pour ma grand-mère, Gabrielle. On va dire que on est sûr aujourd'hui que cette gourmette était à Saint-Exupéry. Ça fera
donc bien dans les calanques de
voilà, et qui a été exposé par la suite au musée de l'air et du Bourget chez notre ami Gérald Felzer. On est sûr que ces pièces d'avion appartenaient à l'avion, puisqu'elles ont été identifiées par un numéro. Tout ça est tout à fait rationnel. Et aujourd'hui, selon la nouvelle thèse qui nous avait été présentée du pilote allemand Horst Rippert, toujours en vie aujourd'hui, à ce jour, eh bien, je laisse la conclusion à François Daguet, qui lui-même a lancé une enquête sur cette dernière hypothèse.
Oui, l'hypothèse du pilote de Horst Rippert est crédible. Elle est crédible. Maintenant, qu'est-ce que ça sera dans un an ou deux ans?
Il faut rappeler ce que dit ce pilote allemand.
Alors, le pilote allemand dit avoir été envoyé en mission pour attraper l'avion d'observation allié et essayer de l'abattre. Il le rencontre aux environs de Toulon. Et là, il le suit. Et alors, il dit qu'il était étonné de voir cet avion rapide, et sinon le plus rapide du monde, louvoyer tranquillement d'un bord à l'autre, en vitesse réduite, et à une altitude de 3000 mètres environ. Il s'est demandé ce qui se passait. Il a hésité pendant quelques secondes, et puis finalement, il a tiré et a abattu. Mais il a ajouté après, il a ajouté dans son rapport, que il avait eu l'impression que le pilote avait aperçu le chasseur qui était derrière lui, avait essayé de reprendre la ligne droite et de repartir. Voilà. On ne sait rien d'autre. On sait qu'il est tombé. Et
alors, c'est François a désiré rencontrer
Horst.
On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, car il ne me l'a jamais dit.
J'imagine que vous n'allez pas nous le dire davantage aujourd'hui.
Non.
Entre soldats, je crois qu'ils sont parlé entre soldats.
Je renvoie nos auditeurs à l'ouvrage de notre ami Jacques Pradel, qui a ce même micro, avait consacré plusieurs émissions à Saint-Exupéry, dont j'ai fait partie d'ailleurs, avec Luc Vanrel. Donc Saint-Exupéry, l'ultime secret, enquête sur une disparition, préfacé par le cher Alain Decaux de l'Académie française. C'est aux éditions du Rocher. Cette affaire de la disparition de Saint-Exupéry étant réglée, et puisque nous avons compris, François Daguet, que vous n'en diriez pas davantage, nous allons pouvoir revenir à l'homme et à son œuvre immense.
jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Antoine de Saint-Exupéry, vu par ses descendants, voilà l'émission du jour. Et deux proches parents du grand écrivain sont à vos côtés, Franck, François Daguet et Olivier Daguet.
Alors François Daguet, vous nous disiez il y a un instant que la dernière fois que vous avez vu Saint-Exupéry, votre oncle et votre parrain, c'était en 1940 à son retour d'Alger. Donc vous aviez 15 ans, vous aviez 19 ans quand il est mort. Avant d'évoquer l'enfance et la jeunesse du grand homme, j'aimerais savoir quel genre de personnalité c'était. Est-ce qu'il était accessible? Quel était son caractère? Comment est-ce qu'on l'abordait?
Non, il était très accessible. Oui, très. Il se mettait à notre portée. On avait 6 ans ou 15 ans, il se mettait à la portée des enfants. Donc on avait un contact avec lui. Un contact d'adolescent ou d'enfant, ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Mais il s'intéressait beaucoup à nous. Tout ce qui était scolarité, etc. Mais je regrette, évidemment, de ne pas avoir été plus âgé, ça aurait été j'aurais pu aller plus loin. Il ne m'a jamais raconté d'histoire. Ou très peu, à peine évoqué ces histoires de vol ou de...
Oui, c'est ça.
Très peu, très très peu. Et c'est étonnant, et je le regrette, parce que ça m'intéressait, mais tout ce que j'ai pu apprendre, c'est en écoutant ce qu'il racontait, quand il parlait avec mes parents, avec la famille. J'ai appris comme ça beaucoup de choses.
Oui, et ensuite, évidemment, en grappillant ses confidences, en quelque sorte. Alors, quel genre d'enfant avait-ce été? Un diable, disait-on. Il était très espiègle, étant enfant.
Alors, il avait deux sœurs aînées et ensuite son frère.
Son petit frère dont on parlait tout à l'heure, oui.
Oui. Eh bien, il a profité de cet endroit central pour avoir une position dominante. Parce que il a dominé.
Et pas de père, il faut dire, parce que son père meurt quand il a 3 ans et demi, oui.
Mais il avait acquis une position dominante. Il avait donc les deux fils qu'il suivait étaient complètement à ses ordres, et il fallait qu'il lutte contre ses sœurs aînées pour arriver à ses résultats. Mais il y arrivait pratiquement toujours. Ma grand-mère disait que il avait un aspect de garçon très très mignon, très gentil, très. Mais en fait, il avait un sacré caractère, et qu'il a toujours gardé d'ailleurs. Et même plus tard, j'ai pu constater qu'il avait une forte personnalité. Il y a quelquefois entre Simone, par exemple, oui. pas notre mère, mais Simone, et deux caractères très forts qui, de temps en temps, avaient des étincelles.
Oui, ça pouvait s'engueuler éventuellement.
Enfin, il faut le dire. On peut le dire.
Est-ce qu'il y a dans la famille des souvenirs, des anecdotes qui sont racontées, dont vous avez conservé le souvenir sur la jeunesse d'Antoine de Saint-Exupéry?
J'ai l'impression, à travers les souvenirs de ma grand-mère, Gabriel, que c'était un météore, quoi. C'était un choc des cultures, parce que Saint-Ex se déplaçait en avion, en Bugatti. Il descendait dans la nuit à Hagué, donc il se tapait les 900 kilomètres. Il débarquait à Hagué, où c'était, imaginez, à Havre.
Il faut que vous situiez cette
qui se trouve donc entre Cannes et Saint-Raphaël, voilà. Mm-hmm. Donc dans le Var, il débarquait là. C'était un Havre de paix, comme on n'imagine pas en 1930. Et c'était
il mettait la révolution.
J'ai l'impression qu'il mettait une révolution là-dedans avec ses paris. Puis il avait ses copains Gide qui descendaient à l'hôtel à côté, le Grand Hôtel d'Hagué, donc il y avait tout ce contexte aussi littéraire intéressant à cette époque-là.
Et tout un bouillonnement.
Un bouillonnement, voilà. Donc il y avait un bouillonnement à Hagué, donc quand il arrivait, ça devait être un peu une révolution, oui, je crois.
Il était devenu, après avoir été donc un journaliste émérite, il est devenu un grand écrivain, reconnu, il a eu tous les prix possibles et imaginables, je l'ai dit en racontant à grands traits, évidemment, son parcours exceptionnel, mais lui se considérait quand même, et avant tout, comme un aviateur, avant d'être un écrivain.
Ça, c'est un vrai débat, ça. Merci de s'en reparler. Oui, lui se considérait comme un aviateur. Deux choses par rapport à ça. Il faut dire que c'était un très bon pilote, c'était un grand pilote, et tous les vrais bons pilotes vous le diront. La légende comme quoi c'était un mauvais pilote, c'est une légende fausse, parce qu'on ne survit pas à autant d'accidents, cher Franck Ferrand, si on est un mauvais pilote. Et il était un peu distrait, voilà.
Voilà,
il était un peu distrait. C'est-à-dire que ce n'aurait pas fait un bon pilote de 747, là je suis d'accord avec vous. Mais c'était un grand pilote à l'instinct.
Il y a une très belle biographie que vous m'avez confiée d'ailleurs, que je ne connaissais pas, de Stacy de La Bruyère, qui est une biographe américaine, une biographie tout en sensibilité sur le personnage. Et elle dit, j'aime beaucoup son expression, alors c'est une traduction, mais elle dit qu'il n'était pas distrait, il avait une absence au réel, dit-elle à plusieurs reprises. Comme une sorte d'absence quasi volontaire, on peut dire.
Je crois que c'était automatique chez lui. Ouais. Il se mettait en pilotage automatique et il pensait, il philosophait, et voilà, il réfléchissait à Citadelle, il était ailleurs. Donc c'est vrai que c'était pas très rassurant pour les passagers, mais en revanche, pour les sacs de courrier, ça allait. Mais c'était un très bon pilote à l'instinct. Et donc, la deuxième chose aussi qu'il a beaucoup choqué, beaucoup peiné dans sa vie, c'est quand il a toujours dit qu'il écrivait à partir de sa vie. La matière de son écriture, c'est sa vie, c'est son expérience. Il ne voulait pas fantasmer, il voulait pas faire de la fiction. Et quand il a écrit sur l'aéropostale, eh bien, pas mal de ses copains pilotes lui sont tombés dessus en disant, ça se dit pas, ça ne se raconte pas, ces choses-là. Et pour lui, ça a été très cruel, très cruel. Oui. Heureusement, Guillaumet, Mermoz, les fidèles sont restés avec lui.
Il y avait des codes encore très forts dans cette chevalerie du ciel, en fait.
Ils lui en ont voulu. Et lui faisait ça d'une façon très sincère. C'était pas du tout pour se mettre en avant ou pour fanfaronner ou pour raconter. Voilà, c'était une matière tellement extraordinaire, car c'est une matière extraordinaire, cette histoire de la ligne de l'aéropostale qu'on vit encore aujourd'hui. C'est les ancêtres de l'aviation civile, c'est énorme. Donc cette matière, il a voulu la traduire en philosophie, en littérature et pour notre plus grand bonheur.
Citadelle, Terre des Hommes, Vol de Nuit, Merveilleux Vol de Nuit, Courrier Sud, autant d'ouvrages, pour faire référence à l'émission d'Elena Morna hier après-midi, qui sont dignes de changer la vie et de bouleverser ceux qui les lisent. Nous venons à l'œuvre de Saint-Exupéry dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 peut-être de la bande originale de Mermoz. C'était un extrait donc de la bande originale du film de Mermoz.
On a eu une petite absence au réel.
Oui. Qu'est-ce que c'est joli ça, un film de Louis Puny Franck.
Oui, Mermoz donc ami évidemment et grand compagnon de Saint-Exupéry. Pendant cette interruption, je demandais à François Daguet s'il avait quelques souvenirs du mariage de Saint-Exupéry avec son épouse, avec Consuelo. Et il me dit, mais vous savez, le petit garçon sur la photo, c'est moi, n'est-ce pas François Daguet?
Oui, tout à fait. Ce mariage, je m'en souviens, c'est le premier souvenir avant, c'est un peu le brouillard. Et j'ai été avec mes petites sœurs, nous avons participé et assisté à ce mariage. Et je me souviens de la cérémonie, de la sortie de l'église, où à l'époque on distribuait des dragées à tous les gosses qui étaient là du village qui venaient. Et puis, à pas lents, la famille, les amis se dirigent vers le repas de noces. Moi, j'étais un peu perdu. Mes petites sœurs avaient disparu. On les avait probablement expédiées à la maison. Et moi, j'ai suivi en tenant la main de notre bonne tante Madeleine, qu'on appelait tante Mad, qui avait pris soin de moi. Et on était à pied comme ça jusqu'au restaurant dans lequel se passait le repas de noces. Alors là, ça a été vraiment un calvaire, mais ça a été extrêmement pénible.
Ah oui?
Seul, j'ai 6 ans, des adultes. Mes plus grands cousins devaient avoir 10 ans de plus que moi. Les plus jeunes, en fait. Oui. Alors, ce repas, je m'ennuyais beaucoup, tout le monde parlait, ils buvaient de grands coups, moi, un verre d'eau. Et en fait, je n'ai rien mangé, j'ai trouvé ça épouvantablement mauvais. Ça, j'ai trouvé ça très long, je me suis ennuyé, je n'avais qu'une envie, c'était de sauter de ma chaise et de filer dans le jardin.
Bon sang, enfin, saurait mentir.
Enfin, la libération est arrivée, tout d'un coup tout le monde se lève, j'ai pas demandé mon reste, et hop, j'ai filé dans le jardin. Mais c'était vraiment un Ben, c'est pas un bon souvenir.
Mais pour nous, c'est un souvenir émouvant, je vous assure. Alors, vous nous disiez, Olivier Daguet, que le merveilleux album du Petit Prince, illustré, coloré, tellement connu, mondialement connu, fait un peu d'ombre au reste de l'œuvre. Il faut en dire un mot, quand même. C'est un best-seller absolu.
C'est le best-seller absolu. C'est un phénomène de l'édition.
400 millions de fans dans le monde.
Oui, 260 traductions à ce jour, reconnues, enfin connues. C'est aussi, je pense, le succès de Saint-Exupéry. Pourquoi ? Non pas sur le côté de l'édition, sur le côté universel. C'est-à-dire que Saint-Exupéry, souvenez-vous, à la fin de sa vie, dit « Que faut-il dire aux hommes ?» C'est sa grande angoisse. Il est totalement angoissé, pour un tas de raisons. Que faut-il dire aux hommes ? Eh bien, il l'a dit. Il l'a dit, c'est le Petit Prince. Donc c'est quand même la réponse à sa question. Il meurt sans savoir qu'il a donné la réponse. Mais pour moi, c'est ça.
Il y a un côté bréviaire, évidemment, dans ce Petit Prince, et qui s'adresse en plus à tous les âges, et qui parle directement à l'humain, ce qu'a toujours tenté de faire Saint-Exupéry, évidemment, à travers tous ses ouvrages. À commencer par Citadelle, qui reste inachevé, complexe. C'est un univers à part entière. Je salue l'arrivée parmi nous d'Elena Morna. Bonjour. Qui, comme chaque jour, est là avec un petit peu d'avance.
Tant que je peux profiter de votre émission,
c'est formidable. Et hier, Elena, vous parliez des livres qui peuvent changer la vie.
Exactement.
Des gens. Mais alors là, vraiment,
le
avec Saint-Exupéry, en fait. Le Petit Prince et tellement d'autres. Moi, je me rappelle des souvenirs d'une force incroyable de Vol de nuit quand j'étais adolescent. On peut dire que des ouvrages comme cela, des œuvres comme celle-là, sont peut-être une sorte de porte d'ouverture vers une maturité, la responsabilité, la liberté, enfin tout ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus grand dans l'homme, tout ça est dans cette œuvre.
Et aujourd'hui, c'est une communauté vivante. C'est ça qui est fantastique. Soyons modernes. Le Petit Prince sur Facebook, c'est 5 millions de fans.
Tout de même.
Ah oui. Bon, c'est ça qui est incroyable à travers les générations, de voir ce Petit Prince qui aujourd'hui, par exemple, devient une sorte d'icône pour défendre la planète, l'enfance. Ça dépasse le simple cadre du livre. C'est en cela que Saint-Exupéry a apporté une réponse extraordinaire à ces questions. Que faut-il dire pour aider l'humanité ?
François Daguet, si vous aviez un texte de votre parrain à recommander à nos auditeurs, je sais bien que c'est un peu délicat et c'est même un peu absurde comme question, mais s'il fallait commencer par quelque chose, en dehors du Petit Prince évidemment, on l'a bien compris, vers où les orienteriez-vous ?
Je pense que Terre des Hommes. Dans Terre des Hommes, on a un choix. C'est ces chapitres différents, d'histoires différentes, de contes différents. C'est là qu'on peut trouver le texte, un texte, ou plusieurs même, parmi eux. Parmi eux, peut-être le plus poétique est celui des princesses argentines.
Ah, c'est sublime,
le plus poétique.
Ouais,
sublime.
Eh bien voilà une réponse claire et un beau viatique, un beau conseil que nous pouvons donner à nos auditeurs. Est-ce qu'il y a de la correspondance de Saint-Exupéry qui n'aurait pas été publiée dans votre famille ?
Il y a de la correspondance dans d'autres familles,
oui,
qui n'a pas été publiée,
oui.
Et notamment une correspondance Consuelo à Saint-Exupéry.
Il faut que vous nous disiez quand même un mot, parce que ce nom est revenu bien sûr constamment dans le cours de cette émission. Qui était cette volcanique Consuelo ?
Consuelo, pour nous, une tante très fantasque, extraordinaire, qui avait un accent de sud-américain fabuleux. Mon chéri, comment vas-tu aujourd'hui? Voilà. C'était ça. Mais bon, je pense que c'était le grand amour de Saint-Exupéry. Ça, on ne peut pas le nier. C'est la rose dont il a été responsable toute sa vie. Ils ont eu des relations volcaniques, si on peut reprendre l'image du volcan au San Salvador. Ils ont eu des relations terribles. Ils se quittaient. Ils pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Ils se trompaient, c'était une époque aussi un petit peu. Ils appartenaient à un milieu un peu artistique, un peu spécial.
Voilà.
Et voilà, ils avaient des mœurs un peu différentes. Mais je crois que cette Consuelo a dû avoir une vie difficile après la disparition d'Antoine. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas su. Je ne sais pas si François, lui, a pu en discuter un petit peu. Ça a dû être très dur après pour elle.
Merci beaucoup à tous les deux. Je tiens à vous dire que nous avons de nombreux messages qui arrivent par Internet et tous pour dire mais quel bon moment, quelle merveille d'entendre quasiment Saint-Exupéry parler. Les gens ont l'impression de le sentir là. Un mot peut-être, mais il nous reste 30 secondes, sur la fondation Saint-Exupéry. Expliquez-nous
son objet. Oui, voilà, donc la fondation de Saint-Exupéry pour la jeunesse que nous avons créée en 1989 défend des projets dans le monde pour la jeunesse en difficulté, parce qu'évidemment on s'est posé la question que pouvait faire Saint-Exupéry de mieux pour aider. Ben, je crois que la jeunesse c'est le meilleur thème, pour qu'on n'ait plus, comme disait Saint-Exupéry dans ce passage merveilleux de Terre des Hommes, des Mozart assassinés. Et donc on essaye d'aider les petits Mozart grâce à cette fondation dans le monde entier.
Les petits Mozart qui donneront peut-être non seulement de grands écrivains, de grands compositeurs, mais peut-être de grands scientifiques, de grands explorateurs et qui sait, de grands aviateurs aussi.
Ou simplement des êtres humains qui vivront dans la dignité.
Bien sûr.
Merci infiniment à François et Olivier Daguet, le neveu et filleul et le petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, d'être venus nous parler de leurs parents si extraordinaires. Vous avez maintenant tout un week-end pour vous plonger dans l'œuvre du maître. Alors je ne peux même pas vous dire bonjour Elena, puisque je vous ai déjà donné la parole.
Bonjour, et je précise pour tous les auditeurs et auditrices qui, comme moi, sont arrivés un peu tard sur l'émission, qu'on peut la réécouter en podcast.
Et ah oui, merci.
C'est d'ailleurs ce que je vais faire
sur Europe 1.fr.
Voilà, sur Europe 1.fr. Alors sinon, vous pouvez rester aussi avec nous parce que nous allons parler. Vous savez que quand je réfléchis aux émissions, je pense à vous, Franck.
Ah ben c'est bien.
Donc
c'est
je me suis dit,
vous êtes un sujet d'étude.
Je crois que Franck est un dingo des loisirs créatifs, macramé, couture, peinture, bricolage.
C'est cela, oui, c'est cela.
En tous les cas, figurez-vous que 2 Français sur 3 s'adonnent à des loisirs créatifs. On en parle. Peut-on d'ailleurs en vivre ? Tiens, c'est une question, parce que de plus en plus, on voit des sites d'achat, de vente de produits faits maison en ligne. On en parle avec les experts. Vous avez des questions ? Vous avez tout simplement envie de témoigner ? Vous nous appelez au 3921, c'est 34 centimes la minute.
Merci beaucoup, Elena. Je vous souhaite un bon week-end, Julia, et à lundi.
À vous aussi. À lundi avec plaisir sur Europe 1.